Aujourd'hui, on parle sans tabou de la presse satirique. Vous le savez, en début de semaine, la ville d'Amatrice en Italie a porté plainte contre Charlie Hebdo. En effet, quelques jours après le séisme qui a quand même fait 295 morts dans le centre de l'Italie, Charlie Hebdo avait publié un dessin de Félix montrant des victimes ensanglantées avec les mentions « peine sauce tomate »,« peine gratinée » ou encore « écrasée par les débris de leur maison » sous le titre « lasagne ». La polémique a rapidement enflé sur les réseaux sociaux. Et puis, ce n'est pas la première fois que Charlie Hebdo est pointé du doigt pour son humour et ses caricatures parfois grinçantes. On se souvient même de certaines réactions violentes, comme par exemple l'attentat qui a frappé la rédaction du journal. C'était le 7 janvier 2015. Mais alors, que penser de Charlie Hebdo et plus largement de la presse satirique? Vont-ils trop loin ou les lecteurs n'y comprennent rien? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui.
03 82 21 04 04. Peut-on rire de tout en France? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2016, mercredi 14 septembre, on peut affirmer qu'on peut rire de tout en France? Que ce soit des caricatures, que ce soit des événements comme cette une de Charlie Hebdo, on se souvient des caricatures du pape, les caricatures de Mahomet, etc. Venez en parler avec nous, on peut même revenir sur les spectacles de Dieudonné, interdit. Finalement, l'humoriste, est-ce qu'il avait à être interdit ou pas? Moi, je veux avoir votre avis à vous et rien qu'à vous. 03 82 21 04 04. On va parler de cette émission avec qui aujourd'hui, Enzo?
Eh bien, tout de suite, on accueille Jean-François Diana, maître de conférence à l'Université de Lorraine en sciences de l'information et de la communication. Jean-François Diana, bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, première question, qu'est-ce que vous pensez de la plainte de la ville d'Amatrice? Est-ce que ça va réellement servir à quelque chose?
Ben écoutez, je pense que déjà dans un premier temps, on est dans un climat compassionnel, donc de fièvre compassionnelle, et on peut peut-être comprendre la mairie d'Amatrice, mais surtout. La question qu'il faut se poser, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est un dessin qui est drôle?
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, à titre personnel, non, je trouve pas que c'est un dessin très drôle. Ça renvoie à la fonction de la caricature première, qui est de déclencher un éclat de rire, quel que soit le sujet. Sans tabou, pour reprendre les termes de Riss, le directeur de la publication de Charlie Hebdo. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de rire au bout d'une caricature, c'est qu'elle a raté son objectif.
Mais vous l'avez dit, à titre personnel, il y en a sûrement qui ça a fait rire. Est-ce que c'est pas aussi le but de l'humour noir?
Oh, l'humour noir n'est pas nouveau, hein. La cruauté des dessins existait déjà sous Louis-Philippe, par exemple, où on représentait les dirigeants et les personnes de pouvoir sous des traits vraiment pas à leur avantage. On attaquait même la dimension physique, hein, le côté physique, les handicaps. Donc je ne crois pas qu'il y ait de limite particulière à évoquer. Il faut simplement bien en parler et avec talent. Hein. Par exemple, si on prend le cas d'un autre phénomène que sont l'insertion des handicapés dans la société. Je crois que les handicapés sont parfois les premiers à rire de dessins qui leur sont consacrés, pourvu que le dessin soit bon. Et pour le cas là, il est pas bon du tout. Il est pas drôle parce que je dirais en quelques mots qu'est-ce qu'un dessin ou qu'est-ce qu'une image? C'est ni plus ni moins que le reflet équivoque d'un événement qui s'est passé dans la réalité.
Avec les mots de Charlie Hebdo.
Là, c'est complètement détaché de la réalité. Je dirais presque que c'est un geste gratuit. C'est un point de vue.
Mais alors pourquoi est-ce qu'on s'offusque aussi rapidement des sujets traités par la presse satirique? Peu importe le sujet, hein, mais est-ce que c'est plutôt le fond ou la forme qui dérange?
C'est un agencement des deux, je dirais. Une articulation entre les deux. Si le fond relève, par exemple, le contenu, par exemple, relève d'une recherche documentaire, d'un événement qui s'est réellement passé, la mise en forme, c'est de la stylisation, c'est autre chose, hein. C'est l'expression d'un artiste, c'est l'expression d'un créateur. On peut adapter de différentes façons un événement, que ce soit en musique, en littérature, dans le journalisme, dans le dessin évidemment, de toute autre façon. S'il y a une articulation entre les deux, il y a évidemment une création de sens. Sur le cas même de la caricature, je crois que c'est ni plus ni moins que le résultat de d'une tradition de contestation un peu immédiate, gratuite. On pourrait prendre des exemples qui sont issus de toutes les époques. Pour prendre l'époque moderne, par exemple, le premier, et c'était Harakiri, hein, c'était Balthazar Colombet à mort. C'était extrêmement, extrêmement drôle, mais alors en contradiction avec les possibles du temps.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut en vouloir à quelqu'un, par exemple, qui rigole d'une une qui met le pape en photo avec un enfant lorsque la semaine d'avant il y a une histoire de pédophilie au sein de l'église qui ressort?
Ouais.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut en rire? Est-ce qu'on est mal vu si on en rit? Moi, je trouve pas.
Je vais pas être très original. Hein. Je vais reprendre la phrase de Desproges que tous les gens un peu réfléchis connaissent, c'est-à-dire on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ça dépend du contexte, ça dépend des limites, ça dépend le tout. J'imagine, c'est de ni humilier ni de blesser. C'est-à-dire la blessure, c'est quelque chose qui reste.
Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre un journaliste qui prend un air comme si le monde venait de s'arrêter quand il parle de cette affaire, même si c'est très grave. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et la plume d'un dessinateur qui fait exactement passer la même info, parce que c'est la même info, mais avec une plume d'humour noir. Moi, j'arrive pas à voir une différence entre ça.
Alors peut-être que c'est en termes de visibilité. Alors que la caricature, par essence, c'est forcé. Les traits, c'est accentué. Pourquoi pas exagérer, comme on pourrait le dire d'un visage de clown, par exemple. Le clown, qu'est-ce que c'est? Le visage de clown, le masque de clown, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que... une façon de tendre un miroir à la société. Mmh. Et par exemple, au possible et aux limites que permet ou non la société, aux obligatoires. Hein. Je pense qu'il suffit d'observer un petit peu ce qui se passe dans le monde. Selon la société dans laquelle on s'inscrit, la tolérance, la limite de la tolérance n'est pas la même sur des questions comme la violence, la mort, la sexualité, tout autre sujet sensible. Donc, le rôle de la caricature, c'est peut-être aller dans les interstices et de dire ce que ne peut pas dire une narration classique, c'est-à-dire tendre un miroir en disant « Regardez-vous et êtes-vous capable de supporter ce que vous êtes en train de voir ?» ou en train de lire, par exemple, des pamphlets, c'est la même chose.
Mais alors, vous parlez des limites, mais en France, où est-ce qu'elles sont les limites? Parce qu'on a pu voir qu'après les attentats de Charlie Hebdo, les Français les ont soutenus corps et âme, ils défendaient la liberté d'expression. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Je n'ai pas de réponse nette à vous apporter, parce que c'est pas une étude ou un champ que j'ai observé. J'ai observé, parce qu'il faut des données hein, pour répondre à ces questions.
Mais est-ce que vous comprenez qu'il y a un an, on supportait Charlie Hebdo, on les soutenait corps et âme, mais aujourd'hui, plus tant que ça.
Moi, je suis pas sûr qu'en France, cette une ait fait si scandale. Les Italiens sont peut-être forcément un peu plus sensibilisés, parce qu'on est quand même dans une tragédie, hein, faut pas se leurrer. Maintenant, est-ce que ça a choqué les Français? Moi, je suis pas sûr. Hein.
Oui, je crois que vous mettez le point sur... tous les deux sur quelque chose qui semble assez évident, c'est que les effets que peut avoir un dessin, par exemple, ou un mot qui est véhiculé dans l'espace public, est-ce qu'on peut qualifier de limité et indirect? Par exemple, la compassion dont a bénéficié Charlie Hebdo, globalement, ça a duré quelques mois. Donc, à l'échelle de l'humanité, c'est pas grand-chose. Donc, c'est un temps limité. Et puis après, au final, si on a les données que je peux... Je les ai pas là, mais combien de lecteurs cela concerne? Combien de personnes cela concerne? Parce qu'on a une tendance assez habituelle à globaliser. Effectivement, cette une de Charlie Hebdo, s'il n'y avait pas eu ce déferlement par les réseaux, par Internet, elle aurait échappé à bon nombre d'individus. Et quand on parle de l'Italie, je pense qu'on parle de... une petite partie de la population de l'Italie, sans doute touchée directement par ça. Donc il faut mesurer, il faut modérer l'effet que peut avoir une caricature.
Alors, vous parlez des réseaux sociaux, justement, Rhys en a parlé. Pour lui, ouais. c'est principalement à cause des réseaux sociaux que cette une a fait autant de bruit. Pour lui, il dit qu'il y a un tintamarre fait sur les réseaux sociaux totalement disproportionné et il n'hésite pas à parler d'un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, il parle même aussi de crétinosphère.
Mais moi, ça me fait rire d'entendre ce genre de phrase.
Oui, ça peut faire rire. Hein. Vous savez, il y a des gens qui sont pas forcément, et je parle pas de Rhys, hein, qui a beaucoup de talent, mais il y a des gens qui sont pas forcément très respectables ou qui peuvent avoir des idées assez limites en termes politiques, mais qui peuvent être assez drôles. On en connaît quelques-uns en France. Bon, c'est pas pour autant qu'il faille aller voter pour eux. Simplement, ils ont une personnalité publique. Quand Rhys parle de ce que ce dessin a produit, a généré sur les réseaux sociaux, bah, il parle non pas des réseaux sociaux, mais d'un certain usage que l'on peut faire des réseaux sociaux. Parce que Charlie Hebdo, évidemment, ne jamais oublier dont a été victime Charlie Hebdo. Bon, c'est un journal qui a bénéficié de ce lien social que constituent les échanges sur les réseaux sociaux. Ça a généré des lecteurs, ça a généré de la sympathie, ça a généré de l'émotion. Et puis, dans l'autre sens, et comme il y a un revers à toute médaille, eh bien, ça peut générer de l'indignation, du scandale. Et c'est vrai que notre époque a plutôt tendance à aller vers le côté négatif. Il suffisait, par exemple, de dire de ce dessin bah, qu'il n'était pas très bon et que par exemple... voilà, les dessinateurs de Charlie Hebdo n'ont...
Oui, non, mais clairement.
Si j'avais un jugement de valeur à donner, si vous voulez, les dessinateurs de Charlie Hebdo n'ont pas forcément le niveau des dessinateurs du Canard Enchaîné.
Exactement. On peut prendre l'exemple d'une chanteuse. Moi, j'essaie toujours de ramener un exemple sur quelque chose que tout le monde peut comprendre, que nos auditeurs et nous en studio on puisse comprendre. Demain, Madonna, Katy Perry ou Johnny Hallyday sort un titre qui n'est pas bon, un titre qui ne plaît à personne. C'est pas pour autant que ce sont des mauvais chanteurs. Ils ont une carrière quand même.
Oui, il faut pouvoir distinguer. Sans doute que Félix, que je connaissais un peu moins, était pas dans un bon jour. Hein. Il a fait d'autres très bons dessins. Simplement, il n'a pas été inspiré sur ce coup-là, et ça enlève rien au talent au talent de Félix et à l'importance que peuvent avoir les caricatures dans l'espace public actuel.
Mais alors, du coup, en conclusion, est-ce qu'on le problème, au fond, il vient d'où ? Il vient de la presse satirique qui ne connaît aucune limite ? Ou alors est-ce que ce sont les lecteurs qui ne sont pas assez éclairés sur ces objectifs ?
Je me garderai de porter, alors, pour le coup, des jugements de valeur sur les uns et les autres. Hein. Je connais personne individuellement. Mais en tout cas, je pense que si solution il pouvait y avoir, c'est évidemment du côté de l'espace de lecture. Il faut avoir un regard un peu plus distancié, nuancé, peut-être avant de par exemple de répandre, de diffuser une information ou de la reproduire, s'informer qu'elle soit fiable. C'est évidemment du côté de la compétence.
Oui,
et l'envie de savoir du lecteur que ça se...
Et puis dans tous les cas, il n'y a pas une loi qui oblige tout le monde à lire Charlie Hebdo. Donc si ça ne plaît pas, on ne lit pas et puis c'est tout.
Par exemple, comme voilà. d'autres choses.
En tout cas, voilà. Après, moi, c'est mon avis sur le sujet.
Comment est-ce qu'aujourd'hui elle est perçue, la caricature ? Est-ce qu'elle est nécessaire dans notre société ?
Oui, j'ai répondu en partie à cette question. Évidemment, elle est essentielle, elle est nécessaire. Elle a accompagné l'histoire de notre monde moderne. Imaginez à l'inverse une société qui ne permet aucune alternative, aucune expression alternative, où on ne pourrait ni rire, ni par exemple gratter, ni chatouiller. C'est Descartes, hein, le premier, hein, qui disait ça dans le théâtre du chatouillement, hein, qui disait si ça me chatouille un peu trop, c'est-à-dire si ça me gêne un peu trop, il suffit que je m'éloigne ou que je détourne le regard. On ne force évidemment personne à être confronté à telle ou telle image, même s'il est parfois aujourd'hui difficile aujourd'hui
de passer à côté,
d'échapper à des commentaires, à des images. Donc ça relève de la liberté individuelle d'être détaché de quelque chose qui pourrait nous gêner. Mais répondre à cette question, effectivement, que la caricature est essentielle. Ça a la valeur d'un éditorial en journalisme, je dirais.
Merci beaucoup, Jean-François Diana, pour votre éclairage sur la presse satirique. On va tout de suite accueillir un auditeur, Jérôme.
Raphaël est avec nous au téléphone. Bonjour, Raphaël.
Bonjour, Raphaël.
Oui, bonjour, Jérôme.
Raphaël, vous vouliez réagir, on vous écoute.
Oui, je voulais réagir en fonction de ce qui a été dit, parce que pour moi, le journalisme, le principe premier, c'est de relayer l'information. Et la caricature fait partie de l'information, même si ça peut choquer. Maintenant, c'est une arme parce que ça peut, on peut relayer l'information en choquant parce que on veut dénoncer quelque chose. C'est peut-être le cas avec la ville d'Amatrice où on voudrait peut-être dire que ben il n'y a pas tout qui est aux normes au niveau des constructions. C'est peut-être le but des journalistes et certains journalistes sont d'accord avec ça en Italie. Maintenant, il faut trouver quand même l'équilibre entre la liberté d'expression, certes, mais au nom des valeurs qu'on a, nous, de notre République. Et la valeur, c'est aussi le respect des autres. Alors, où trouver la limite entre l'information, vouloir dénoncer quelque chose et respecter aussi le deuil des personnes en Italie, mais aussi la religion de chacun quand il s'agit de faire des caricatures du pape ou de Mahomet.
Mais alors, le respect, bien sûr, il faut qu'il y en ait. Mais alors, où est-ce qu'on place la limite si Charlie Hebdo, par exemple, fait une caricature le lundi sur le pape, le mardi sur Mahomet, le mercredi sur les bouddhistes ou je ne sais quelle autre religion qui existe sur notre terre. Dans ce cas, est-ce qu'on peut parler de manque de respect ou est-ce que le fait qu'on parle petit peu de tous les sujets, ça équilibre?
Le fait de parler de toutes les religions, de tous les sujets, en effet, ça peut équilibrer, mais il faut trouver une limite pour toutes les religions et qu'elle soit la même pour tous.
Bon, en tout cas, merci beaucoup Raphaël de nous avoir appelé pour nous donner votre témoignage.
Merci à vous.
À très bientôt, bonne journée dans l'émission Sans Tabou qui revient demain, Anso.
Et qui revient demain, on parlera des centrales nucléaires. Vous le savez, aujourd'hui, les salariés de la centrale de Fessenheim étaient appelés à faire grève pour protester contre le projet de fermeture de la centrale alsacienne. Mais alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a encore réellement besoin du nucléaire en France? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres options à privilégier? Est-ce que vous vous sentez en sécurité, par exemple ceux qui habitent autour de Katnum? Ou est-ce que vous craignez une catastrophe telle que Tchernobyl ou Fukushima? Eh bien, on attend vos témoignages au standard 03 82 21 04 04. On en parlera sans tabou.
Deux exemples, Canso vient de vous donner, mais je pourrais très bien vous dire que le premier est une erreur humaine, le deuxième, une conséquence au niveau du climat. On parle d'un tsunami, parce que sinon, on n'a jamais entendu parler d'un réacteur qui éclate tout seul comme ça, comme par magie. Alors à vous de venir nous en parler. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à passer à la formule un peu plus écologique, mais dans ce cas-là, à payer l'électricité bien plus cher, parce que c'est une évidence, même si on nous dit quand on peut très bien abandonner le nucléaire, on payera plus cher, il n'y aura pas d'autre solution et ce sera comme ça au moins pour quelques années pour cette transition. Venez nous en parler, 03 82 21 04 04. Quand aujourd'hui le nucléaire et l'écologie font face, ce sera dans notre émission Sans Tabou demain à midi. Merci beaucoup Anso.
À demain Jérôme.
Et on se retrouve demain.